ans, malgré l'heure un peu matinale, mais il faut bien que quelqu'un commence, alors ça tombe sur nous, et ça tombe sur vous. J'espère que ça se passera bien pour nous comme pour vous. Je vous présente les participants à cette table ronde qui est consacrée au père fondateur de la science-fiction. À ma gauche, Tommaso Pinchio, qui est un écrivain italien, qui a publié Un amour d'outre-tombe, Le silence de l'espace et un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle Cinacita, Mémoire de mon crime atroce, qui est un livre un petit peu inclassable, mais qui relève d'une certaine façon de la science-fiction, peut-être apocalyptique. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. À ma gauche, Robert Charles Wilson, qui est un écrivain canadien d'origine américaine et qui est connu à travers une œuvre considérable, notamment, vous connaissez sans doute Darwinia, qui a été publié en 1999, et puis une trilogie de Spin, que vous connaissez peut-être. Nous lui demanderons exactement les liens qu'il peut y avoir entre son inspiration et peut-être quelques figures tutélaires de la science-fiction.
Is that okay for the translation? You don't have a headphone?
No.
S'il vous plaît, nous étions censés avoir une traduction simultanée pour nos amis. Merci.
I'm sorry about that.
Until now, I understood everything.
Okay. Bon, je continue. Donc, tout à fait à ma droite, Claude Eken, qui est écrivain de science-fiction et de policier, et qui a écrit pas mal de choses. Bon, son dernier ouvrage, c'est, je crois, Au réveil, il était midi, qui va être publié, édité à la Talente, et qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour son recueil Le Monde tout droit réservé en 2006. Bon, Claude Eken n'est pas seulement écrivain, mais il est aussi critique, il s'occupe de BD, d'un festival de BD, il fait beaucoup de choses, il est anthologiste, et il est considéré comme un des pionniers du cyberpunk, le cyberpunk, punk, je ne sais pas comment on dit en franglais, français. Voilà. Tout à fait à ma droite, Gilles Menegaldo, qui est professeur émérite de civilisation et surtout de... Pardon, pas de civilisation, de littérature américaine, et qui travaille depuis très longtemps, je ne vais pas dire combien de temps, sur les littératures de l'imaginaire, notamment le fantastique, un grand spécialiste de Lovecraft, et aussi un spécialiste du fantastique et de la science-fiction et ce qu'on appelle la littérature de genre qu'il a étudié à travers plusieurs colloques, notamment qui se sont tenus à Cerisy, sur l'horreur, aujourd'hui, Gilles travaille plutôt sur le cinéma. Voilà. Donc, voilà notre panel. Et merci Hugo. Voilà, j'attends que nos amis aient leurs écouteurs pour lancer notre fusée. Maybe we'll have a try. Is that okay? Right. Bon, pour lancer ce débat, évidemment, qui me paraît évidemment très, très ambitieux, il faut réfléchir à la notion de père fondateur. Alors, qu'est-ce que c'est un père fondateur ? Le problème est un problème historique que beaucoup d'écrivains et beaucoup d'historiens, de spécialistes de science-fiction ont évoqué, c'est quand commence la science-fiction et quelles sont les grandes figures tutélaires de la science-fiction, quels sont ceux qui ont révolutionné d'une certaine façon le genre et quels sont ceux qui ont inspiré la science-fiction telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Comme vous le savez, même si vous n'êtes pas des grands spécialistes de la science-fiction, il y a eu plusieurs époques dans l'histoire du genre. Il y a eu notamment ce qu'on appelle l'âge d'or du côté américain dans les années 50, 40-50. Et puis aujourd'hui, la science-fiction, disons, les utopias en témoignent, la science-fiction évolue, la science-fiction aussi se conforme au temps nouveau. Il y a toujours le poids de la science, mais aussi le poids des idéologies, le poids des croyances. Et donc, d'une certaine façon, la définition même de la science-fiction, elle évolue au fil des temps. On le sait, en tout cas aujourd'hui, c'est que la science-fiction existait avant que le terme n'existe. Vous savez que le terme science-fiction est un terme qui est apparu au début du XXe siècle. Alors, le problème, et je ferai un rapide tour de table, le problème, c'est quand commence véritablement ce type de littérature, ce type de rêverie. Est-ce que ça commence, comme le dit Pierre Versin, par exemple, dans son encyclopédie, dès les débuts de l'écriture, avec l'épopée de Gilgamesh, ou est-ce que ça commencerait avec l'émergence grandissante de la science après la Renaissance, 17e, 18e siècle? Est-ce que, par exemple, on peut considérer que les utopies sont partie intégrante de la science-fiction? Ou alors, et c'est l'hypothèse qui est retenue le plus souvent, il faut s'en remettre à deux grandes figures qui sont Jules Verne et Wells dans la deuxième moitié du 19e siècle et même au début du 20e. Donc voilà, je lance un peu le train sur les rails pour rapidement peut-être demander à nos amis quelle est leur conception des pères fondateurs du genre. Peut-être Tommaso.
Bonjour. First of all, I would excuse myself to not be able to speak French. This is the third time I come to Nantes, to this beautiful town, to this beautiful festival, and I think that I really should speak French. But I promise, if you invite me for the fourth time, I will learn French. So the founding fathers, to me, as many, many people, the first meeting with science fiction as an Italian was with Jules Verne. I could say that it's not only the first meeting with science fiction; it was the first meeting with literature. In general, because the book of Jules Verne are the first books I ever read in my own life. So it's something very, very linked together. You know, the idea of telling stories and the idea to imagine fantastic traveling through space or through strange place with strange machines. And as a matter of fact, I have an homage for the Utopial Festival, which is here. I don't know if you can see it. You know, I'm a writer, but also I'm a Sunday painter, an amateur painter. And for the Utopial Festival, I tried to did a portrait of Jules Verne. You can see here, this is Mr. Jules Verne. And here you have a strange situation. Actually, the title of the painting is Portrait of Jules Verne while he's a little bit disappointed while he's traveling is a submarine trying to get to the moon. And is he disappointed because he discovered that someone with a balloon got to the moon before than him? So to me, this is the science fiction in my mind, and also, my idea of the work of Jules Verne, a writer who really I love very much, Philip K. Dick. Once say that the beginning of the science fiction must be searched in the fantastic traveling voyages of the 17th century. Because in his opinion, what is important in science fiction, what makes a science fiction stories is the travel and is the place you want to go. And he gave a precise example, which was related specifically to Jules Verne. He said that it doesn't matter that in the novels of Jules Verne you go to the moon with a sort of rocket. The most important thing is that you go to the moon. And it would be a science fiction story even if the characters of the novel would try to get to the moon with a rubber band. It's a very interesting point. He did this, he had this idea, when he was trying LSD. also could be also another kind of voyage. And for many points, I agree with him. But for other points, I'm not sure this is the point, because the scientific problem in Jules Verne was very, very, very important. To me, what makes Jules Verne a science fiction writer is the idea to write a sort of geography of the entire world. His ambition was to describe the entire planet Earth and the world unknown.
Please go on. Because c'était juste un tour de table rapide, mais vous avez bien enclenché le débat pour parler peut-être du voyage, le voyage imaginaire. Peut-être que le voyage imaginaire est un genre ou un sous-genre ou un thème ou un sous-thème qui pratiquement fait partie intégrante de justement cette littérature pionnière de la science-fiction. Est-ce que vous seriez d'accord, Mr. Wilson, sur cette importance du voyage imaginaire par rapport à la science-fiction? Je sais que vous préférez Wells à Jules Verne, que vous connaissez un peu moins, mais...
Well, it's... I almost hate to come to France, much less to Nantes, and disparage Jules Verne. And I'm a great admirer of Jules Verne, but you're correct, it's Wells that I look to as one of the... If you must name a founder of science fiction... at least in the English language, you have to look to Wells. It's my conviction that every science fiction writer should have a definition of science fiction and that they should change it every 10 years. So I've had a different definition of science fiction every 10 years. My current definition of science fiction is, I like to think of it as the miracle stories of the Enlightenment. There has always been a human appetite for fantasy. If you look as far back as even the apocryphal gospels, infancy gospels of Jesus, you see a tremendous appetite for, a real creative urge to make up miracle stories. There's something edifying about a miracle story. The Enlightenment tended to cast these into the shade, and it meant that literature didn't have a good way of talking about the miraculous in the context of science. And it seems to me that something happened in the 19th century, especially in the latter part of the 19th century, where it became painfully obvious that change was going to be a consistent and important part of the human experience, and there needed to be a literary way of talking about change. And for a lot of writers, I think this was an opportunity. It's almost as if a new aesthetic space had been opened up for writers to inhabit. And I think H.G. Wells was ideally placed to explore that new aesthetic space. There are obviously antecedents. There are people who came before, and you can name all sorts of, before and after Mary Shelley. You can talk about books as proto-science fiction. But on my shelf at home, I keep a large black hardcover volume of the complete short stories of H.G. Wells. And even more, I think, than his novels, what you have in that book is almost the whole of science fiction in its infancy. Wells seems to me important because he was fascinated with change, and not just technological change. He was fascinated with the idea of geological change, change over time, obviously social change, as a socialist who believed he could envision a better way of organizing human society, and someone who was aware of how fluid human culture is. And he was a writer who was obviously inspired. Those early stories poured out of him, one after another. I think he exhausted that vein after a while. That's when he began writing his social novels, and they're perhaps less well-remembered than his science fiction stories. But he strikes me as important, too, because he was not addressing his work to an audience of dedicated science fiction fans or people who had any conception of what science fiction was. He was addressing his work to a general audience of literary people who were curious about this, about the sciences, and about future, and about ideas. So for me, he remains the key figure. Mm.
Merci beaucoup. J'aurais envie de demander à Claude Eken s'il partage cette vision de l'importance de peut-être de Jules Verne et de Wells pour la science-fiction, même contemporaine.
Je suis d'accord pour dire que ce sont les deux pères fondateurs. J'en ajouterai peut-être deux autres, c'est Kipling d'une part et Rosny Henné d'autre part. Kipling, il y a une anthologie de nouvelles qui a été faite par John Bronner et qui montre combien Kipling était intéressé par la technologie et a écrit des histoires qui se rattachent à une proto-science-fiction. Par rapport au voyage, je pense que sur des auteurs plus anciens, il faut ajouter... l'auteur a été cité par Robert Charles Wilson, c'est Shelley, mais avec Frankenstein, qui est donc... ce n'est pas le voyage, c'est plutôt l'action de l'homme. J'ai l'impression que c'est surtout au XIXe siècle et autour de ces auteurs-là que tout se cristallise, parce que la société est justement en train de changer du point de vue technologique et du point de vue aussi social et politique. Voilà, donc on est... Par rapport à la proto-science-fiction, il y a des gens qui écrivent des histoires dans leur coin qui ne se rattachent pas encore à un genre parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour parler de la même chose. Disons que les pères fondateurs ne savent pas ce qu'ils écrivent. Comme n'importe quel fondateur, il n'y a pas encore de nom attribué à leur littérature. Mais c'est bien parce qu'ils se lisent et qu'ils ont envie d'écrire la même chose que là, quelque chose se constitue et cette chose-là s'appellera en 29 seulement la science-fiction. Avant, il y aura plusieurs autres titres, autres appellations qui ont été proposées et qui dureront que l'espace d'une ou deux années. Voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Et je dirais aussi qu'elle est née deux fois. Elle est née en Europe, dans la deuxième partie du XIXe siècle, au moment où donc l'industrialisation est en train d'arriver et que la société est en train de changer. Et ensuite, elle est née aux États-Unis, au XXe siècle, avec Hugo Gernsback, donc, et puis la première revue Amazing Stories.
Voilà. Merci Claude. Gilles, peut-être l'universitaire a quelque chose à dire sur les pionniers de la science-fiction, peut-être quelques noms qui n'ont pas encore été prononcés.
Oui, alors effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit sur les pères fondateurs Wells et Verne. Je pourrais peut-être revenir simplement sur une question de, comment dire, presque de... militantisme dans la définition de la science-fiction. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, dans les années 50, je dirais, la science-fiction a eu besoin d'être légitimée, comme par exemple le cinéma a eu besoin d'être légitimé aussi par référence à la littérature. Et donc on a ancré la science-fiction dans des origines très lointaines, comme par exemple Lucien de Samosate. Donc ces précurseurs de la science-fiction qui effectivement ne s'appellent pas encore science-fiction, on peut en trouver des quantités, y compris d'ailleurs des scientifiques comme Kepler, parce que le songe de Kepler est quand même un... qu'on dirait une description très intéressante de d'autres mondes, justement, de voyages, encore une fois, mais fondée sur des recherches scientifiques. On pourrait parler aussi de Cyrano de Bergerac, un voyage dans les empires de la Lune et du Soleil, je crois. On pourrait parler, bien sûr, de Swift, qui a été aussi cité. Donc le 18e est important. Bon, je citerai un autre grand auteur qui n'a pas été cité, Edgar Allan Poe. On a parlé aussi du fait que peu importait le moyen de voyager, ce qui était important, c'était le voyage, comme l'a dit M. Pinchot. Je pense que les aventures d'un certain Hans Pfaall, ce qu'on appelle le canard au ballon en français, c'est une expédition fictionnelle en quelque sorte sur la Lune, et ça aussi c'est tout à fait intéressant. Donc Poe était aussi un des précurseurs, c'est aussi celui qui s'intéresse à l'homme mécanisé, donc l'homme augmenté, le joueur d'échecs de Maelzel par exemple. On sait très bien aussi que les gens du 18e sont beaucoup intéressés à la question de l'homme robotisé ou mécanisé. Il y a une nouvelle de Poe qui s'appelle The Man That Was Used Up, hein, l'homme qui était usé, qui raconte comment un personnage littéralement se désarticule. Voilà. Juste un mot pour revenir sur Wells très brièvement, peut-être l'opposer un petit peu à Jules Verne, même s'ils sont tous les deux des pères fondateurs. Je crois que Wells est allé peut-être plus loin que Jules Verne dans la remise en... Enfin, on peut dire que Jules Verne extrapole à partir de données scientifiques existantes assez souvent, alors que Wells va bien au-delà. Par exemple, dans La machine à explorer le temps, il invente un voyage dans le temps, et c'est pas le seul intérêt du roman, mais disons qu'il conçoit une machine à explorer le temps qui est relativement crédible et qui se fonde sur une théorie scientifique de l'époque, sur l'idée que le temps est une quatrième dimension, donc on peut se déplacer dans le temps comme on se déplace dans l'espace. Ce roman de Wells est donc quelque chose qui va en quelque sorte au-delà, hein, qui remet en cause les données scientifiques même, et pas simplement la technologie. C'est peut-être une des différences entre Wells et Verne. Bon, voilà. Je ne veux pas parler trop longtemps non plus, parce qu'on n'a qu'une heure. Voilà, merci.
Non, je pense que évoquer Edgar Allan Poe, que les Français appellent Edgar Poe, c'est... comme s'il le récupérait après Baudelaire d'une certaine façon, c'est important, parce que ça prouve que les origines de la science-fiction sont à chercher peut-être à l'extérieur de l'Europe aussi. Alors c'est vrai aussi que la culture de Poe était assez européenne, hein, mais c'est tout de même un Américain qui a mis d'une certaine façon une certaine science-fiction sur les rails, disons au milieu, même pas dans la première moitié du 19e siècle. Et je pense que quand on demande à des écrivains américains de science-fiction leurs sources, eh bien certains en effet se réfèrent à Poe. Et je pense aussi à quelqu'un qui est malheureusement pas assez évoqué, c'est Edgar Rice Burroughs. Alors bien sûr c'est un petit peu plus tard, mais je crois que Burroughs a énormément amené à une certaine, là encore, forme de science-fiction qu'on pourrait appeler populaire. Pour revenir donc sur la notion de changement, je crois en effet que la science-fiction est peut-être le premier genre qui est chargé peut-être de proclamer le changement à travers peut-être le voyage, à travers la découverte du monde, à travers la découverte scientifique et technologique. Mais le problème qui est posé, et qu'on trouve d'ailleurs curieusement chez Verne et chez Wells, c'est a change for the better or for the worse. Est-ce que c'est un changement positif ou un changement négatif? Je vois par exemple, Gilles vient de parler de La machine à explorer le temps. Or, la machine à explorer le temps, qui est une des premières œuvres de Wells, est terriblement pessimiste vu qu'elle se termine par la fin du monde. Bon, lorsqu'on regarde bien Jules Verne, bon, c'est vrai que Jules Verne a un rapport privilégié avec Nantes, et maintenant on a une véritable idée globale de l'œuvre de Jules Verne. On sait que toute l'œuvre de Jules Verne est marquée par un pessimisme croissant. Hein. Et la dernière œuvre de Jules Verne, c'est L'éternel Adam, qui est encore une histoire d'apocalypse, une histoire de fin du monde. Donc je crois que j'ai envie de demander si ces pères fondateurs, pratiquement, ont amené une double vision de cette transformation du monde, à la fois positive ou négative, ou est-ce que vous pensez qu'elle était plutôt enthousiaste? Anyone?
Well, it's very difficult to say. I think in any kind of writer there is a sort of ambiguous relationship with technology and science in general. You know, Verne was basically optimistic, but he wrote many, you know, few pessimistic novels. It's the same for, you know, it's more true for Wells, who's a rather, I love the master. To me, it's very difficult to say. I think that one of the point of science fiction is the question, what is the entity which rules the world, and how, you know, you can you know, break this rule, and what happened when we break those rules? At one point, you know, in our history, science appears to us that, you know, the way you can break the rules. So probably the question is it a good thing to go over this kind of rules, for instance, to travel to space? Or is a bad thing? Yeah, this is a, you know, I don't think there is an answer. I think the main point is the questions. A writer I love the most said the good writer didn't get the right answer. They just give the good question.
Okay. Oh, yes, please.
No, I think that's very true. I think that's worth emphasizing that it's true too that in American science fiction there has always been a controversy over whether, as writers, we should be cheerleading for technology. And it goes back to Gernsback too, the idea that we should be encouraging the understanding of science at the very least, that we should have an educational role to play. These seem kind of like anti-literary ideas. I think the thing that science fiction should do is acknowledge change and explore change. I don't think we're obliged to cheerlead for change. I think the honest thing for us to do is acknowledge that optimism and pessimism are both... You know, when we look at the future, we have to simply be honest about it. We don't know that the human race has a special role to play in the universe. We don't know whether we can survive what happens to our planet in the short or the long term. And I think it's good for us to explore both possibilities. So I try to be, in the question of optimism and pessimism, I try to be agnostic. But I think this argument is built deeply into science fiction, and it goes back to our founding fathers, which is what makes it interesting and pertinent.
Claude?
Par rapport il y a aussi la mort de la Terre de Rosny Aîné, hein, par rapport à ces fins du monde, j'ai l'impression que c'est aussi une question de perspective. Au moment du 19e siècle, il y a d'abord l'origine des espèces, Darwin, très controversé à ce moment-là, mais il y a aussi tout un mouvement qui s'intéresse à la préhistoire, la paléontologie qui arrive. Donc Rosny Aîné, on le sait, a écrit pas mal de romans préhistoriques, mais Wells aussi a écrit des histoires préhistoriques. Et à partir du moment où on a une perspective temporelle, que l'on peut regarder comment était le monde à ses origines, où l'humain n'existait pas, on va forcément se dire que dans l'autre sens, dans un futur très lointain, l'homme aura peut-être disparu et laissé la place à une autre espèce. C'est ce que raconte justement Rosny Aîné dans La mort de la Terre. Mais c'est pour ça aussi que lorsque l'on veut essayer d'aller voir plus loin dans l'avenir, on se dit bien que peut-être il y aura un avenir où l'homme aura disparu. D'où peut-être toutes ces histoires de fin du monde qui apparaissent à ce moment-là. Il me semble que la question temporelle de la paléontologie a donné cette perspective-là.
Oui, ça m'amène peut-être à citer un autre auteur qui n'est pas un père fondateur, mais qui a certainement joué un rôle dans le développement de la science-fiction, C.H.P. Lovecraft, effectivement, puisque c'est quelqu'un qui commence à écrire au début des années 20, enfin même avant les années 20, et qui justement traite de ce genre de thème de ce qu'on pourrait appeler la régression de l'humain, dans les espèces animales, par exemple, dans certains des textes. Donc l'idée que le darwinisme, c'est pas forcément une évolution, mais ça peut être une involution, c'est-à-dire que l'homme peut dégénérer. Le thème de la dégénérescence étant bien sûr déjà traité par Wells dans La machine à explorer le temps, par exemple, avec les deux races humaines. l'une la race des, disons la classe des oisifs qui devient dégénérée sur le plan physique mais aussi intellectuel, les Elohim, donc le peuple élu qui devient une espèce d'enfant chétif physiquement, très beau mais chétif physiquement, et aussi intellectuellement diminué. Et puis la classe ouvrière, les Morlocks, qui dégénèrent d'une autre façon, deviennent des espèces d'êtres mécaniques et anthropophages. Et la dégénérescence continue ensuite, puisque la dernière image qu'on a d'une espèce animale, ce sont des espèces de crabes géants qui ont colonisé la planète. Donc ça, mais Lovecraft va plus loin, à un autre niveau, c'est-à-dire que comme d'autres auteurs de science-fiction conjecturale comme Olaf Stapledon, par exemple, qui est aussi un moment important dans les années 30 de la science-fiction et dont Lovecraft se réclame, il relativise l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est plus que, disons, qu'un point dans l'univers à l'échelle du temps cosmique, et il est susceptible effectivement de disparaître et d'être remplacé par différentes espèces. Et bon, vous connaissez sans doute les grands romans de voyage justement intercosmiques de Lovecraft, notamment L'ombre venue du temps, où le personnage de l'humain transporté dans le cerveau d'un extraterrestre s'aperçoit que l'homme a disparu et que plus tard la Terre sera dominée par les insectes, par exemple. Bon, ce sont des thèmes science-fictionnels qu'on retrouve constamment. Voilà, en tout cas, donc c'est effectivement ces auteurs, que ce soit à la fin du 19e ou au début du 20e, sont très fortement influencés par aussi bien les découvertes paléontologiques que les découvertes biologiques et que tout ce qui touche aussi à l'ethnologie et l'anthropologie et qui fait qu'effectivement que le paradigme humain devient problématique. Qu'est-ce que c'est qu'être humain, et ça devient des grands thèmes évidemment de la science-fiction ultérieurement.
Oui, je crois que c'est très important de noter le poids extraordinaire de ce qu'on appelait les nouvelles sciences. Bon, archéologie, géologie, paléontologie, ça a eu un impact extraordinaire, non seulement sur la science-fiction, mais sur ce qu'on appelle l'imaginaire en général. Bon, mais ce qui me semble très intéressant, je suis heureux d'ailleurs qu'on parle de ça, parce que c'est une idée reçue tellement fatigante sur l'histoire de la science-fiction. C'est vrai qu'il y a eu une époque au 19e siècle où la science-fiction était... célébrait, disons, la science naissante, et en effet cette idée de miracle, cette idée d'une la fée électricité, comme on disait à l'époque. Or, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui prolifère un type, disons, de science-fiction de fin du monde, apocalyptique. Or, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de récits de science-fiction de fin du monde à la fin du 19e siècle. Donc, en fin de compte, je vois un côté cyclique dans l'histoire de la science-fiction. Nous sommes en train, d'une certaine façon, de répéter un petit peu tous cette période troublée qu'il y a eu à la fin du 19e et que nous vivons sans doute aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture, disons, de quelques livres de nos invités, c'est La noirceur. Et je vois par exemple Tommaso Pinchio avec Cinecittà, bon, qui me rappelle d'une certaine façon le péril jaune, le yellow peril, hein, de la fin du 19e siècle. Des œuvres que j'appellerais apocalyptiques aussi chez Robert Wilson. Bon, Spin est tout de même très, très, très sombre, hein, avec des risques terribles pour l'humanité. D'ailleurs, je crois une partie de l'humanité disparaît. Et puis, un ton tout de même très, très, une tonalité très sombre également dans l'œuvre de Claude Aiken. Donc, j'ai envie de leur demander quel serait le lien, peut-être qu'il n'y en a aucun, entre justement les figures tutélaires qui sont beaucoup plus ambiguës qu'on ne le croit, de la science-fiction, et peut-être leur œuvre actuelle. Cette tonalité sombre, d'où surgit-elle?
I'm afraid that I couldn't understand completely because I don't have translation in anymore in.
You didn't get it. Okay. I was telling you about the dark side of your work. Spain and Cinecittà. Okay. So I was wondering if there was a link between, in fact, the ambiguous role of the founding fathers and your present work.
Oh, yes, for sure. I think that the problem of the dark side, the apocalyptic perspective was in the science fiction from the very beginning, also because it's very difficult at the very beginning to find a precise separation from what is a horror story and what is science fiction story. Frankenstein is a gothic story, considered, but you know, in Frankenstein you have a precise science fiction point because the Victor Frankenstein decided to solve a major problem with a scientific method, but he got in a dark world. Another example, very important example to me is Dracula, who is not at all a science fiction story. It's a typical horror story, but there are you have many, many specific technology issues in the novel, and the novel is about the fear of what can happen if you are losing the old system, based on family, based on religion. It's science is always a big question mark. Could be also a problem of invasion. At the end of the 19th century in England, you have a sort of a new kind of journey in science fiction, let's say science fiction literature, which is the Gothic invasion literature. The menace coming from abroad, which is a sort of, you can find something like that even in the Wells fiction stories.
Well, it's to me, it depends to a degree on what you consider to be dark. Science fiction demands that we step outside of the human perspective, and that's always a deeply unsettling thing to do. It reminds us of our own mortality and the mortality of our species, and those are difficult things to wrap our minds around. But there's also something exhilarating about it. There's something exhilarating about looking beyond yourself and looking beyond your species and looking beyond your planet and looking beyond your time. I've written a book called Burning Paradise, which is, from a conventional perspective, a very dark book. It's about people who discover that the human race is in a symbiotic relationship with another species. This is a theme that other writers have approached. And it's always kind of dystopic. It's like a terrible thing to be used by another species. But what I wanted to examine was the possibility of a real symbiosis with a species that doesn't actually have our interests in mind, a species that we would consider utterly amoral. They're not hostile to us, but they're not friendly to us either. We interest them only to the extent that we're useful to them. But that doesn't mean they want to eliminate us. It doesn't mean they want to kill us. It may mean they want to enter into a partnership with us, but it doesn't care whether we consent. And what's dark about this story is the idea that it may be good for us, even if we don't like it. And I wanted to look at that square on, and that's kind of a dark thing to consider, but it's the sort of thing that science fiction loves to look at, and it's what makes science fiction fascinating to me as a writer.
Claude.
Je n'ai pas l'impression d'être forcément pessimiste. Ou alors il faudrait peut-être considérer que tout ce qui est roman policier est très noir avec le nombre de meurtres, d'escroqueries, de cambriolages que l'on peut trouver dans cette littérature.
Si je peux t'interrompre, dans une interview tu dis « il y eut dans les siècles passés des périodes bien plus sombres que la nôtre ». Je crois que ça en effet, il faut le rappeler.
Il y a eu. Par contre, bon, on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et la science-fiction, lorsqu'elle se pose quelques questions sur des réalisations à venir, va tout de suite voir l'utilisation détournée que l'homme pourrait en faire. On écrit moins sur la science qu'on ne fait un discours sur la science. Et connaissant l'être humain, bon, ben, on sait bien que s'il y a une direction dans laquelle il ne faut pas aller, tôt ou tard, on ira explorer, on ira voir. À partir de là, on peut avoir aussi des interrogations scientifiques qui ne sont pas forcément pessimistes. Moi, je crois que l'homme arrivera toujours à surmonter ses problèmes, même si dans des avenirs parfois très proches, on peut être très pessimiste et penser qu'il y a de gros problèmes à venir, c'est certain. Mais on peut aussi considérer que sur un plus long terme, ça avancera qu'à un quart. Voilà. Mais je ne pense pas vraiment être pessimiste. C'est plutôt une réflexion. La fin du Big Bang, par exemple, c'est une réflexion sur sur le monde et sur la manière dont on le perçoit. Ça n'a rien à voir avec un aspect sombre de la société. C'est peut-être lorsqu'on regarde la société qu'on est le plus noir.
D'accord. Le mot gothique a été employé, Gilles. Peut-être tu voulais intervenir là-dessus. C'est tout de même assez étonnant de voir que le gothique qui émerge au début du 19e continue de fonctionner aujourd'hui. Est-ce que, d'une certaine façon, le gothique, la noirceur du gothique, n'a pas coloré un petit peu cette teinte un peu angoissante d'une certaine science-fiction ?
Oui, je pense. Alors, c'est vrai que je voudrais juste revenir sur Dracula, qui effectivement, ça peut paraître un peu ridicule d'évoquer Dracula comme relié à la science-fiction, mais en tout cas relié à la science certainement, puisque vous savez peut-être que les frères de Bram Stoker, l'auteur de Dracula, étaient tous des scientifiques, des médecins. Et que l'une des grandes questions qui est posée par Dracula, outre la question de l'immortalité du vampire, c'est la limite de l'humain et la limite entre normalité et folie. Et donc le personnage du fou dans le roman, en tout cas, même si dans les films on en parle moins, encore que dans le film de Coppola par exemple, le fou joue un rôle important, c'est vraiment une question fondamentale. À quel moment s'arrête la normalité, commence la folie? Et en fait, le roman montre comment tous les personnages graduellement peuvent se considérer comme fous ou sont considérés comme fous par d'autres, y compris le professeur Van Helsing, donc, qui est un scientifique, mais qui connaît les mythes et qui connaît l'histoire du vampirisme en particulier, qui donc peut intervenir avec ses rituels spécifiques, l'utilisation de la croix, etc., sur les vampires. Donc la question de la médecine, de la même manière, les victimes du vampire sont associées, enfin disons l'épidémie vampirique est associée à une maladie psychique qui est l'hystérie. Hein, les femmes mordues par le vampire sont des hystériques à proprement parler. Elles sont aussi en état de somnambulisme. Donc il y a toute une série de questions scientifiques effectivement qui sont posées par le roman, sans parler de toute la question du voyage. Donc les nouvelles technologies pour voir le monde littéralement, sans parler aussi de la question de l'impérialisme, qui est aussi une des questions qu'on va retrouver dans des romans de science-fiction ultérieurement, l'empire victorien menacé par le nouvel impérialisme américain, avec le personnage de Quincy Morris qui, nous l'oublions pas, apporte l'or nécessaire à l'expédition contre les vampires, etc. Donc, d'où la question, effectivement, de l'articulation, de la porosité des frontières entre le gothique, le fantastique, la fantasy et la science-fiction, d'où des sous-genres comme ce qu'on appelle la dark fantasy, la fantaisie noire, avec des auteurs dont on n'a pas encore cité le nom, mais un auteur comme Robert E. Howard, contemporain de Lovecraft, qui écrit effectivement des romans d'heroic fantasy, mais qui sont en fait teintés très fortement de références gothiques. Voilà. Et donc, c'est effectivement l'articulation gothique et fantastique et science-fiction me paraît fondamentale, et on trouve de nombreuses œuvres hybrides dans la littérature contemporaine. Juste une petite remarque sur ce qu'a dit M. Wilson. Vous parliez de la manière dont les humains fusionnent, entre guillemets, avec des êtres ou sont instrumentalisés par des êtres appartenant à d'autres races. Je vous signale simplement la projection dans le cadre du programme de film ici, de Phase 4 de Saul Bass, qui justement traite de ce rapport entre les humains et les insectes, notamment les fourmis, et donc où effectivement les humains sont instrumentalisés par les fourmis. C'est un film remarquable qui n'est pas si facile que ça à voir en grand écran en tout cas, et qui est réalisé par Saul Bass, le seul film. Saul Bass, surtout connu pour sa conception des effets spéciaux dans 2001 Odyssée de l'espace et bien d'autres films. Voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça.
Je crois que M. Wilson voulait intervenir.
I just wanted to add a footnote. I think it was, you're quite right about Dracula. And I think Bram Stoker did something else in that book that's pertinent to science fiction too, is that he took what was by that time a very familiar gothic tradition, which we see in the first chapters of the book, and he transplanted it into modern London. So it becomes a discourse on the gothic in modernity. It becomes, in the sense, a book about change. I think writers had assumed that these two had to be kept segregated, that the gothic could only exist in the sort of the gothic mindset. What Stoker did so wonderfully was to introduce all that stuff to modern London. And if you read the novel, he emphasizes the modernity of London. Half of it is written as telegrams, news stories. It's a familiar strategy today. Horror writers, Stephen King famously does it in volume after volume. But it was a new idea when Stoker did it, and it's a very powerful one. And I think it is pertinent to how science fiction juxtaposes ideas, the ancient, the modern, and the futuristic. I think that's very astute.
J'ai l'impression qu'on décrit la science-fiction, le fantastique et peut-être le polar par rapport à des menaces qui sont plus ou moins identifiées. Lorsque Dracula fait référence, donc, comme le dit Gilles, à l'Empire qui se sent menacé et que c'en est une métaphore, il semblerait que les menaces très très lointaines sont exprimées au sein de la science-fiction, que lorsqu'elles commencent à être présentes mais non encore identifiées dans la société, ça se traduira sous forme fantastique. On verra peut-être que l'on remplace les endroits terrifiants dans les histoires fantastiques qui étaient les manoirs à l'époque, les châteaux hantés, par des couloirs éclairés par des néons, des choses comme ça, la menace d'un monde qui arrive. Et qu'ensuite, lorsque la menace est identifiée, ça passe dans le polar. On aura donc pas mal d'histoires avec des tracks sur Internet et autres, qui était le cyberpunk de l'époque et qui passe ensuite dans la littérature policière. Au fur et à mesure que la menace se rapproche, on est en train de changer de genre littéraire.
On se rend compte qu'il y a une porosité, comme tu disais, entre la science-fiction et d'autres genres. Et je crois que bon, c'est une sorte de tabou qui a été enfreint ces dernières années. On a eu tendance à enfermer la science-fiction dans un cadre scientifique très strict et à s'intéresser d'une manière un peu quelquefois méprisante à d'autres genres ou sous-genres qui sont par exemple le policier, la fantasy comme on dit, la fantasy, heroic ou dark, et puis le fantastique. Et puis aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle une hybridation des genres qui est multiple, qui est tellement apparente, notamment au cinéma, mais également dans la littérature actuelle, où, en fin de compte, on mêle des genres. Alors évidemment, les puristes, il y a toujours ce débat entre les puristes de la science-fiction. Non, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes ou les soviets. Et puis, faut pas mélanger le fantastique et la science-fiction. Or, justement, par rapport à notre débat, on s'aperçoit que chez les pionniers de la science-fiction, ben, il y avait une certaine facilité, c'est le moins qu'on puisse dire, à passer d'un genre à l'autre. Je pense à quelqu'un dont on n'a pas encore prononcé le nom, qui est Conan Doyle. Conan Doyle, c'est pas seulement le créateur de Sherlock Holmes. Hein, son chef-d'œuvre, c'est tout de même The Lost World, le monde perdu, qui relève d'une certaine façon, de la science-fiction par rapport, disons, à la géographie encore ouverte du XIXe siècle. Donc, Conan Doyle écrivait également des romans terrifiants, des nouvelles assez occultes. Bon, et aujourd'hui, ben, on s'aperçoit que les écrivains actuels ont cette facilité à nouveau à passer d'un genre à un autre. Je vois, Tommaso, que parce qu'on parlait du 19e siècle, peut-être on peut se rapprocher de l'époque actuelle. Philip K. Dick faisait partie donc des gens qui vous avaient influencé. Donc j'ai envie, peut-être, on se rapproche petit à petit vers la fin de notre débat, peut-être de trouver des figures qui ont pu vous influencer plus récemment. Quelle est, selon vous, la force de Dick par rapport à vos ouvrages?
Philip Dick is the writer who influenced me the most in general terms. And the case of Philip Dick, it's a very interesting one because is generally considered a science fiction writer, but as a matter of fact, he tried to be a mainstream writer for the first part of his life. And, you know, to be a science fiction writer was a sort of, you know, what happened to him. And science in Philip K. Dick is not very important. What is very important in Philip Dick is the way he see the world. What is real, what is not real, what is my place in the world, what is the relationship between me and the outside, what is bad, what is good. And so I think this is the major point to me of science fiction, you know, to create a world which is very close to the, you know, to the common world. And in this case, to me, Philip K. Dick was the master of the 20th century.
Philip K. Dick did something absolutely extraordinary, I think. Science fiction has always been about change and the fact that things are not fixed. But the assumption has always been, for literary purposes, that human consciousness is an exception to this. And what Dick did, which was so wonderful, was to say that, no, not only does everything change, not only does he have this Epicurean vision of the universe, but consciousness, too, is in flux. Consciousness, too, is something we cannot absolutely trust. And this is a deeply unsettling and rather wonderful idea. And I wanted to mention one more writer who's influenced me personally to some degree was Ray Bradbury, who introduced sensuality to science fiction. I don't mean sexuality, I mean the senses, the sort of a kind of a deep sensual connection to the world that you see in everything that Ray Bradbury wrote, which had been absent from the genre before, and I think he contributed that to it.
Je crois qu'on peut être en effet influencé par des auteurs beaucoup plus récents. Alors, Bradbury vient de nous quitter, mais je pense aussi qu'il y a peut-être l'influence de Stephen King, qui n'est pas véritablement un auteur de science-fiction. Donc, on peut très bien être influencé par d'autres auteurs plus récents. Je crois, Claude, que tu citais Sturgeon, qui n'est pas assez... qui est un peu oublié aujourd'hui, oui.
Theodore Sturgeon sur un versant plus humain qui se pose aussi la question de la place de l'homme dans la société, de la même manière que Dick le fait. Il me semble que c'est l'impact social des nouvelles technologies qui est toujours au centre, c'est vrai, de la science-fiction. Elle l'était dès le départ avec Gernsback aussi dans Amazing Stories. C'est ce que l'on va faire, c'est aussi... l'histoire est sombre, mais ce que l'on raconte, c'est comment on va régler le problème. Il y a aussi toujours la question de la résolution du problème. Et Sturgeon le fera sur le plan beaucoup plus humain, ce qui m'avait beaucoup touché chez lui, justement.
Oui, je voulais juste peut-être dire aussi que Philip K. Dick est très, très important pour le cinéma, puisque actuellement, enfin depuis déjà un certain temps, un certain nombre de ses romans, de ses nouvelles ont été adaptés au cinéma, à commencer par Blade Runner, hein, de Ridley Scott, dont on peut voir... Prometheus, donc qui est sorti il y a quelques temps, et bien sûr Minority Report. Donc, effectivement, le problème s'est un peu déplacé, encore que chez Dick, on peut trouver des histoires aussi qui ont trait à des invasions extraterrestres, etc. Mais le problème s'est déplacé sur l'humain et la conscience humaine. Alors, sans doute, peut-être avec l'usage des psychotropes, mais disons que Dick s'interroge sur les possibilités de la conscience ou du cerveau humain, et la question du simulacre, des objets simulacres, etc. Et c'est ça qui, je crois, rejoint des préoccupations actuelles sur ce qu'on appelle le post-humain. Alors le post-humain aussi bien dans les sciences, entre guillemets, la biotechnologie, les nanotechnologies, etc. Et bien sûr, les résonances dans la fiction littéraire et cinématographique. Donc je crois que Dick, effectivement, est quelqu'un d'important. Par contre, juste un mot sur Sturgeon. Effectivement, pour moi, ça a été une grande découverte quand j'ai commencé à lire de la science-fiction. Le cristal qui songe, par exemple, déjà le titre est magnifique. Et effectivement, je dirais que Sturgeon introduit aussi la poésie, de la même manière que Bradbury introduit la poésie, par exemple, dans The Martian Chronicles, c'est les chroniques martiennes, d'emblée. Voilà.
Personnellement, je mets un peu mon grain de sel, mais très brièvement, je crois qu'il y a bien, évidemment des pères fondateurs, mais je crois beaucoup à la notion de généalogie. Je crois qu'il y a une généalogie de l'imaginaire qui, évidemment, recoupe celle de la science-fiction. Et je crois, pour avoir un peu étudié des pans entiers de romans imaginaires inclassable et très peu connu, qu'il y a également, une généalogie des inconnus, une généalogie d'auteurs méconnus. Or, on les connaît un petit peu, mais je pense à la France, par exemple. Environ 3000 romans scientifiques ont été écrits en français entre 1860 et 1950. Bon, du côté américain, j'ai recensé... 1500 romans de monde perdu, évidemment... 99% des auteurs sont totalement inconnus. Or, ils ont eu tout de même leur moment de gloire très, très bref, mais ils ont participé à cette grande généalogie. Je voudrais tout de même citer des gens en France. Tu as parlé de Rony, qui me semble très, très important. Le problème de Rony, c'est qu'il n'a jamais pratiquement été traduit en anglais, ce qui est un scandale absolu. Pensez à Maurice Renard, Gustave Le Rouge, Régis Messac, Jacques Spitz. Enfin, on pourrait trouver des centaines et des centaines de noms qui, ont eu une fulgurance et peut-être ont été oubliés, mais ont eu leur rôle à jouer. Donc, les pères fondateurs, oui, mais il ne faut pas que leur ombre soit trop écrasante.
Tu ne peux pas avoir de géant de la littérature s'il n'y a pas à côté d'autres auteurs qui ont participé au mouvement.
I would like also to mention, as a founding father, the philosopher in general. Science fiction is a kind of philosophy, and to me, you know, it's very strange to say, but to me, the really founding father of science fiction, of a certain kind of science fiction, is René Descartes. Cogito ergo sum is the basic of many, many science fiction novels, and for instance, in Philip Dick, because it raised a very important question: what I know and what I don't know, what I can take for sure and what I cannot be sure about. So, you know, at a certain point, philosophy to me started to be very important a foundation for a certain kind of literature attitude.
Okay, Mr. Wilson, last word.
Yeah, I'll second that remark, because I think that's very true. I think if you look as far back as classic Greek philosophy, you see this idea emerging of, I mentioned Epicurus, the idea of the world constantly being in flux and constantly changing. It's an observation that's not new to humanity, but it's always fertile literary ground, and I think the best thing modern science fiction writers can do is remember that they're in a continuing tradition that's almost as old as human thought, so that we should all think of ourselves in one way or another as founding fathers.
Claude, un mot bref, peut-être, avant de passer une ou deux questions à la salle.
Non, je vais peut-être juste rajouter aussi d'Alembert, qui est important par rapport au philosophe, puisque c'est lui qui va quand même se poser la question s'il y a d'autres gens à travers le monde, enfin, non, sur d'autres mondes qui pourraient exister. Donc,
Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de généalogie. Pour juste donner un exemple, j'avoue que j'ai oublié le nom de l'auteur, mais par exemple, parler de la machine à explorer le temps de Wells, il y a un auteur antérieur, bien antérieur à Wells, qui a évoqué un dispositif pour voyager dans le temps, même s'il n'était pas aussi, bien sûr, sophistiqué que celui de Wells.
Très brièvement, si vous avez une ou deux questions, très très brèves, allez-y. Très vite.
Fondamental à mes yeux, Robert Heinlein.
Oui, d'accord.
Qui est peut-être le seul auteur à avoir eu toujours une vision positive du progrès.
On est tous d'accord, mais on parlait des pères fondateurs. Disons, le Golden Age a été très important. On n'a pas eu le temps peut-être de l'évoquer. Non, mais c'est... C'est vrai que Heinlein a eu un rôle important. On est tous d'accord.
Stapledon aussi.
Oui, c'est sûr. Oui, bonjour. Quid des mères fondatrices?
Eh bien, elle a été évoquée.
Et
beaucoup d'historiens considèrent que Mary Shelley, c'est la mère de la science-fiction. Bon, c'est assez controversé, mais oui. Mais il y a eu des femmes, hein. Beaucoup de femmes ont écrit, j'ai parlé des pères, mais il y a aussi des mères, mais elles sont minoritaires. Dans les romans que j'ai un peu cités, il y a aussi des femmes qui ont joué leur rôle. Beaucoup de femmes, par exemple, ont écrit des utopies du côté américain. Hein. On ne peut pas parler de tout, bien sûr. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Bon, nous arrivons au terme de ce débat. Eh bien, je remercie les participants et je vous remercie de votre attention. À bientôt.